Chapitre 28. Ce n'était point parce qu'il ne savait pas à quelle porte frapper que Sylvain n'avait pas été plus précis avec Marichette, mais c'était parce qu'il ignorait si l'on répondrait à son appel. Pourquoi lui donner une espérance si on devait le refuser? Elle était déjà assez malheureuse, la pauvre fille, sans lui imposer une humiliation nouvelle. On ne veut pas de toi parce que... En ne citant à l'avance ni le nom de personne, ni le nom de pays, il pourrait, en cas de refus, se retourner et chercher ailleurs. Celle à laquelle il comptait s'adresser était une lingère de Berneval le Malgardé, appelée Mademoiselle Julienne, connue non seulement dans la contrée, mais encore sur toute la côte normande, dans les villes et les villages de Bain, où elle faisait d'importantes affaires avec les Parisiennes pendant la saison. C'était une vieille fille d'une cinquantaine d'années, fortement charpentée, résolue et barbue, qui avait tout l'air d'un gendarme habillé en femme. On prétendait que c'était une ancienne religieuse défroquée, mais cela n'était nullement prouvé, car lorsqu'elle était arrivée dans le pays, 15 ans auparavant, personne n'avait pu savoir d'où elle venait. Elle avait commencé par ouvrir une petite boutique plus que modeste, puis peu à peu, son commerce s'était développé. Elle travaillait avec autant de goût que de solidité, et comme avec cela elle se contentait d'un petit bénéfice, elle avait su se faire une clientèle dans le monde des baigneuses qui trouvait chez elle une perfection de travail inconnue dans les grands magasins de Paris et les couvents. Quand le mois de juillet arrivait, elle partait avec une voiture de commis voyageurs qu'elle conduisait elle-même, et jusqu'en septembre, on la rencontrait sur toutes les plages à la mode, visitant sa clientèle qui l'attendait fidèlement. Il était incontestable que si elle le voulait, Mademoiselle Julienne pouvait donner du travail à Marichette. Mais le voudrait-elle? Là était la question pour Sylvain. C'était une femme fantasque. Par bonheur, en travaillant pour elle, il avait pu lui rendre un service dont il n'avait point demandé le paiement, et cela lui permettait de se présenter dans d'assez favorables conditions. En quittant Marichette, il s'en alla à Berneval le Malgardé, où il trouva Mademoiselle Julienne dans son magasin, au milieu de 4 ou 5 ouvrières qui cousaient. Quand il eut dit à la vieille fille qu'il désirait l'entretenir en particulier, elle le fit passer dans sa cuisine. Mais avant de le laisser parler, il fallut qu'il acceptât un verre de liqueur. Elle avait la prétention de préparer les liqueurs de ménage mieux que personne, et elle en avait une riche collection. Cerises, prunes, cassis, rossolio, noyaux, qu'elle offrait généreusement, sans en prendre jamais elle-même. « Si je donnerais de l'ouvrage à une ouvrière habile, » dit-elle quand Sylvain lui adressa sa demande. « Mais certainement, elle ne serait pas habile que présentée par vous, monsieur Belloc. Je l'accepterai quand même. Je sais ce que je vous dois et je verrai à l'employer selon ses mérites. Un autre verre de cassis ?» Cela était encourageant, mais le plus dur n'était pas dit. Il fallait maintenant nommer cette ouvrière et expliquer dans quelles conditions particulières elle se trouvait. Il le fit franchement, sans rien cacher, et sans qu'elle l'interrompît une seule fois par un mot ou même par un signe, ce qui n'était pas sans l'embarrasser et sans l'inquiéter. Quand il fut enfin arrivé au bout de son sujet, elle se leva. « Venez avec moi, » dit-elle. Et elle lui ouvrit la porte de la cuisine pour le faire passer dans un petit jardin, enclos d'une épaisse haie d'épines taillée au ciseau. Il la suivit, fort étonné. Elle le conduisit dans une assez belle pièce, éclairée par une fenêtre et une porte-fenêtre donnant sur ce jardin et joignant la cuisine. « Qu'est-ce que vous dites de cela ? » demanda-t-elle. « C'est une belle chambre, » répondit Sylvain, ne devinant pas où elle voulait en venir, et parlant pour dire quelque chose. Au midi, à l'abri du vent de mer, planchéier sur cave, belle cheminée, est-ce trop d'en demander 100 francs par an? Non, certes. Eh bien, elle sera celle de votre cousine, si vous voulez. Alors, vous acceptez? Comment si j'accepte? Pour qui me prenez-vous, monsieur Belloc? Est-ce qu'entre femmes, on ne doit pas se défendre contre ces canailles d'hommes? Ce que ces canailles d'hommes avaient fait à la vieille fille, on ne l'avait jamais su, comme on n'avait jamais rien su de ses années de jeunesse. mais quoi qu'il en fût, elle détestait tous les hommes, et particulièrement ceux qui avaient une mauvaise réputation, comme Simon Belloc. « Votre cousin est un libertin, » dit-elle en continuant, « et c'est un devoir de venir en aide à la pauvre fille dont il a fait le malheur. On dit qu'il y a des gens qui ont peur de lui, moi je ne le crains pas, pas plus qu'un autre d'ailleurs. À cause de sa grossesse, je ne veux pas installer cette jeune fille dans mon magasin. Il y a des dames que cela suffoquerait. Mais elle travaillera dans cette chambre en attendant qu'elle puisse se montrer. Si elle est ce que vous dites, je vous promets qu'elle gagnera bien sa vie et celle de son enfant. Une Parisienne qui sait travailler et qui veut travailler, c'est une perle. Par malheur, il arrive trop souvent que celles qui savent ne veulent pas. Un verre de noyau, n'est-ce pas ? » Et il fallut que Sylvain rentrât dans la cuisine pour boire ce verre de noyau. Il s'entendit alors avec Mademoiselle Julienne pour qu'elle achetât les meubles indispensables à l'habitation de cette chambre, literie, chaise, table, quelques pièces de vaisselle. Il aurait voulu laisser une certaine somme pour le paiement de ces objets, mais dans son ménage, ce n'était pas lui qui avait le maniement de l'argent. C'était sa femme qui réglait tous les comptes et qui gardait soigneusement la clé de sa caisse. « Je n'avais pas prévu cet achat, dit-il, je n'ai pas emporté d'argent. » « Ne vous inquiétez pas de ça, monsieur Belloc. Je me charge de tout et soyez tranquille, j'irai à l'économie. Nous réglerons plus tard. Je vais avoir des travaux à faire, ça entrera en compte. » Cette parole fut un soulagement pour l'embarras de Sylvain. Il n'aurait pas à parler de ses acquisitions à sa femme. Certainement, elle ne refuserait pas le nécessaire à Marichette. Cependant, dans les dispositions où elle était présentement, il valait mieux éviter de la contrarier. Il s'en revint rapidement à Criquefleur, tout fier d'avoir cette bonne nouvelle à apporter à Marichette. Au moins, il aurait la satisfaction d'avoir fait quelque chose pour elle. Voulant l'avertir tout de suite, il rentra par les derrières, afin que sa femme ne le vît point, et avec précaution, en se cachant, sans bruit comme s'il était en faute, il monta l'escalier et se glissa dans la chambre de Marichette. « C'est fait, » dit-il joyeusement, « tu pourras, quand tu voudras, entrer chez Mademoiselle Julienne. » Et il lui expliqua ce qu'était Mademoiselle Julienne, dans quelle disposition celle-ci se trouvait à son égard, les arrangements qu'il avait pris pour son logement. « Je crois que tu seras bien, » dit-il. « Oh, mon cousin, vous êtes trop bon pour moi !» s'écria Marichette, profondément émue de cette marque de tendresse. « Je serai content si cela te fait penser, quand tu seras seul, que tu peux compter sur mon affection. Seulement, je te demande de ne pas parler du mobilier à ta cousine. C'est inutile, et puis elle m'en voudrait de l'avoir privée du plaisir de s'occuper de ton installation. Tu comprends ?» Elle ne comprenait que trop, mais c'était justement parce qu'elle comprenait que son cœur s'emplissait d'un doux sentiment de gratitude. Comme il fallait qu'il fût bon et qu'il l'aimât pour avoir osé prendre une pareille responsabilité. Maintenant que les choses étaient arrangées avec Marichette et qu'il avait la certitude qu'il ne serait pas question de l'achat du mobilier, Sylvain avait hâte de descendre auprès de sa femme qui, elle aussi, bien certainement, allait être satisfaite. Puisqu'elle tenait tant à ce que Marichette quittât sa maison, elle ne pouvait qu'être heureuse du résultat qu'il avait si rapidement obtenu. Au premier mot qu'il lui dit, il fut stupéfait de l'effet qu'il produisait. « Comment ? Tu as été voir Mademoiselle Julienne ? Où voulais-tu que Marichette fût mieux ? Sans me consulter ? Tu m'avais dit qu'il fallait qu'elle quittât la maison. Pour qu'elle allât à Rouen, au Havre, au diable, dans une ville où elle serait perdue et où nous n'entendrions plus parler d'elle. Marichette ne veut pas quitter le pays où elle a été accusée. Par sa conduite, elle montrera ce qu'elle est aux gens qui l'ont calomniée. Elle ne montrera rien du tout. Sais-tu ce qu'on dira ? C'est qu'elle n'a pas voulu s'éloigner du pays où sont ses amants. C'est abominable. C'est comme ça. Sans compter que si elle restait à Berneval, nous aurions l'humiliation d'avoir à deux pas de nous une parente misérable et déshonorée, une ouvrière. Elle ne sera pas misérable, elle travaillera. et à chaque instant, il faudra que nous lui venions en aide, à elle et à son bâtard. Tu me feras le plaisir de retourner chez Mademoiselle Julienne et de lui dire que Marichette n'entre pas chez elle. » Pour la première fois de sa vie, Sylvain, révolté, persévéra dans sa révolte. Tout ce que sa femme dit ne réussit pas à ébranler sa résolution. « Tu as voulu que Marichette quitte la maison, elle la quitte. »